Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une jeune femme. Je vais être honnête avec vous. C'est un homme qui m'a orientée vers elle et qui m'a dit à quel point c'était une formidable femme d'aujourd'hui. On y va pour la rencontrer.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Salim Achaye, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lala Salima?
Ça va très bien, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là.
Eh ben, merci beaucoup pour la confiance. Et moi, vraiment, première question, je vais être, comme on dit, crue et directe. J'ai l'impression que c'est le switch le plus bold jamais réalisé pour un parcours. Passer d'ingénieur biomédical à styliste, designer. Il y a que c'est bien, toi, on parle de la même personne.
Oui, c'est bien la même personne, absolument.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Salima?
Il s'est passé que j'ai suivi un parcours classique. Donc, généralement, on finit après le bac en école de commerce ou en école d'ingénieur, mais toujours un parcours très classique. Et après avoir travaillé dans le domaine, j'ai vite réalisé que je serais beaucoup plus épanouie personnellement et professionnellement en suivant ma passion.
Donc, c'était déjà une passion.
Oui, absolument. C'était déjà une passion. Après, il fallait quand même conjuguer la passion avec l'expérience. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller suivre un programme de modélisme et de lancer la marque en 2018.
Ok. Alors ça, c'est vraiment en version rapide. Maintenant, on va détailler chaque étape. Parce que voilà. Donc, bac, études supérieures, école d'ingénieur, Salima... À son diplôme, elle commence à travailler, c'est la fierté de ses parents, ok, elle commence à gagner sa vie. Et ben on met les choses dans leur contexte, on est d'accord.
Oui, absolument, oui.
Et à côté, Salima a toujours aimé, coudre, faire des dessins de tenues, etc. Et puis un beau jour, elle découvre que finalement, ses études, ce titre d'ingénieur ne lui convient pas du tout, ce travail ne lui convient pas du tout. D'abord, comment as-tu pris conscience concrètement que ce n'était plus possible, que ça fait, je ne veux plus?
Je pense que ça a été déclenché par l'expérience professionnelle, c'est-à-dire que on travaille, on est dans un bureau, on travaille sur des projets, ça se passe bien. Je ne dis pas le contraire, ça s'est toujours très bien passé, mais que à un moment donné, on commence à sentir qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque cet épanouissement personnel au fond de soi. On se dit, il me manque cette flamme. Donc, on mène à bien ses projets professionnels, tout se passe bien en entreprise, mais à un moment donné, on se dit, voilà, il faut que je saute le pas, il faut que je le fasse, parce qu'il n'y a que de cette manière-là que je me sentirai épanouie à 100%. Alors après, bien sûr, ça fait très très peur hein, au début. Je ne dis pas que c'est super facile. Non, parce qu'on quitte quand même des avantages sociaux, on quitte une stabilité financière, on quitte beaucoup de choses. Mais je pense que le prix de l'épanouissement va au-delà, prend le dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, on va le faire, on va y aller. On ne peut pas le faire juste par passion, en tout cas pour moi, dans mon cas, je me suis dit, d'accord, tu es passionnée, tu adores faire des mood boards, tu as toujours aimé faire ça, etc. Mais s'arrêter au stade de passion. À un moment donné, on se dit, moi, en tout cas dans mon cas, je me suis dit, il va falloir quand même le faire de manière, entre guillemets, un peu plus professionnelle. Donc, tu n'as pas le choix que de retourner aux études et d'avoir un diplôme en poche, ne serait-ce que pour apprendre la technique, apprendre à réaliser des patrons, apprendre à maîtriser toutes les techniques de couture, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé d'obtenir mon diplôme avant de lancer la marque et la société de manière professionnelle. Voilà.
Alors, lorsque la décision a été prise, justement, lorsque mentalement, tu t'étais, ça fait, décidé à complètement changer et à te donner professionnellement à ta passion. L'entourage dans tout ça, comment tu as pu le gérer? On n'est pas des êtres, on n'est pas des électrons libres quand même. Nos parents s'investissent pour nous. Enfin, moi, je me dis, je vais m'investir pour mes enfants. Comment je réagirai le jour où ils viendront me dire, non, finalement, tout ça, ben, c'est pas ce que je veux.
Alors, non. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu un entourage familial qui m'a beaucoup soutenue. C'est-à-dire que, évidemment, il y a eu des craintes. Évidemment, on m'a posé des questions. Es-tu sûre de toi? Parce que ça implique que je pose ma démission quand même et je me dédie à 100% à la marque. Donc, on m'a quand même posé la question. On m'a quand même demandé, es-tu sûre de ton choix? Es-tu sûre de ta décision? Et en fait, ces questions-là, elles ne viennent pas pendant... elles ne viennent pas pendant les études, c'est-à-dire que ces questions-là, elles viennent au moment où on se dit, ça y est, j'ai créé ma société, je vais le faire à 100%. Et une fois que, en fait, on explique notre démarche, qu'on explique notre objectif et qu'on explique qu'on en ressent réellement le besoin et que, de toutes les manières, je ne peux être épanouie que de cette manière-là, l'entourage finit par comprendre en fait que on a fait tout ce qu'on a pu, on a suivi le parcours entre guillemets classique qu'il fallait suivre, mais qu'aujourd'hui, on aspire à autre chose.
Est-ce que tu aurais voulu, dès le départ, en quelque sorte, gagner du temps et vraiment être allé directement vers cette formation et cette voie qui te passionne?
Alors, tu sais, Yasmine, je me suis déjà posé cette question-là, en me disant, est-ce que je serais allée plus loin aujourd'hui ou j'en serais à un autre stade de ma vie si j'avais fait ce parcours-là dès le début? Et certainement, mais pas de cette manière-là. Et en fait, je le fais et je me dis que c'est sans regret. Parce que j'ai acquis une méthode de travail, j'ai eu de l'expérience dans un autre domaine qui m'a apporté beaucoup de choses que j'applique aujourd'hui. Je pense que je ne réfléchis pas de la même manière, je n'aborde pas les problématiques de la même manière et je ne regrette pas d'avoir eu le parcours que j'ai eu. Peut-être que j'aurais gagné du temps, mais je n'aurais pas évolué de la même manière, voilà.
Parce qu'en fait, il y a un raisonnement scientifique dans ton approche. Parce que c'est tes études et ta formation, il y a une approche scientifique dans tout.
Oui, absolument. En fait, il y a déjà une approche scientifique. Ça peut paraître étrange à dire, mais quand je réalise un patron, mais je le réalise différemment qu'un modéliste peut-être qui a suivi ce parcours-là juste après son bac, parce que je vois d'autres formes, je perçois le corps de la personne différemment. Et puis, même dans l'approche des problématiques du quotidien, parce que faut pas croire que c'est glamour tous les jours. On gère de la paperasserie, on gère de l'administratif, on gère beaucoup de choses à côté de ça. Et face à des problèmes quotidiens, je ne réagis pas de la même manière. Donc, je pense que vraiment mon parcours en entreprise m'a aidé aujourd'hui à aborder les problématiques différemment, avec plus de maîtrise de soi déjà. J'ai appris à gérer les tierces personnes, à dealer avec vraiment ce genre de problématiques, mais différemment.
Alors en fait, moi déjà, ce que je retiens de notre échange, c'est qu'il n'y a jamais de temps perdu. C'est qu'il n'y a jamais de « et si c'était ?» Parce qu'il y a toujours, tout ce qu'on fait est source d'apprentissage.
Absolument. J'en suis convaincue aujourd'hui.
Alors dernièrement, je discutais avec une femme qui me disait, moi j'ai l'impression d'être une décennie en retard dans ce que je devrais réaliser. Elle me disait, j'aurais voulu réaliser ce que je suis en train de faire autour de entre la trentaine et la quarantaine, alors que je me retrouve à les réaliser entre 40 ans et 50 ans. Elle se disait, est-ce que c'est trop tard, justement? Est-ce qu'elle doit rester dans cette perception d'être en retard d'une décennie?
Je ne pense pas. Ça rejoint complètement la question précédente. Non, parce que la personne qu'elle est aujourd'hui n'est pas la personne qu'elle a été il y a 10 ans. Cette personne qu'elle est aujourd'hui, a évolué, elle a une manière de réfléchir, elle a un autre mindset, elle est peut-être plus assurée, elle a plus confiance en elle, elle a traversé des épreuves qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et tous ces éléments font qu'elle aborde son projet ou sa vie professionnelle d'une autre manière. Elle n'aurait pas pu l'aborder de cette manière-là il y a 10 ans. Moi, je reste convaincue que toutes les expériences que l'on vit nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui et qu'on n'est certainement pas la même personne qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans. Je le vois, je donne un exemple tout simple, mais ma gestion du stress il y a 5 ans n'est pas ma gestion du stress aujourd'hui. Face à des problèmes de douane, à des problèmes de fournisseurs, etc., etc. Donc, je sais qu'on n'est pas en retard, on est vraiment pas en retard. Et même dans le milieu de la mode, parce que c'est l'exemple que je peux citer, on a beaucoup de designers aujourd'hui de renommée mondiale, mais qui ont commencé, entre guillemets, bien plus tard que les autres. On prend l'exemple de Vera Wang, elle a lancé sa société, elle avait 40 ans. Mmh. Et aujourd'hui, on connaît tous cette designer dans le monde entier. Donc, je reste convaincue que ce qu'on apporte aujourd'hui à l'instant T n'aurait pas pu être cet apport-là il y a 10 ou 5 ans ou à 18 ans, juste après avoir eu notre PAC.
Absolument. Bah, j'espère qu'elle nous écoute, mais en tout cas, notre communauté de femmes s'inspire des histoires des autres et voilà. Et puis, le podcast est toujours à la demande, disponible sur Medium Podcast et sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Donc, vraiment, à tout moment, on a cette bouffée d'oxygène de partage et de prise de conscience. Est-ce que parfois, Salima Chaïb, est-ce que parfois, il t'arrive de te dire dans un petit coin de ta tête, j'ai quand même laissé un confort.
Très honnêtement, oui, ça arrive. Ça arrive de se dire que j'étais bien, j'avais une bonne situation, j'avais beaucoup d'avantages. On se le dit pas tous les jours, on se le dit dans les moments difficiles.
Voilà.
Mais le prix de la liberté de réaliser ce qu'on a envie de faire, comme on veut le faire,
n'a pas de prix.
Et chasse cette pensée-là, exactement. C'est-à-dire que le confort, oui, mais disons qu'on ne peut pas tout avoir. On n'a pas et le confort, et la situation, etc., etc. Et pouvoir avoir la chance de faire ce que l'on veut, comme on le veut, avec ses propres conditions, ses propres barrières, ses propres limites, c'est le plus important. C'est vraiment ce qui prend le dessus. C'est-à-dire que je sais poser mes limites aujourd'hui. Je sais ce que je veux. Je sais comment je veux travailler, de quelle manière, avec qui aussi. C'est très important. Toutes les interactions qu'on a au travail, au quotidien, pas seulement avec les clients, mais avec tous les prestataires, fournisseurs, etc. On a le luxe de choisir. Et ce luxe-là n'a pas de prix.
Alors,
le choix n'a pas de prix.
Le choix n'a pas de prix. On va revenir justement à cette période de gestation, en fait, avant que la décision ne soit définitivement prise, où on aussi entre, j'ai le confort d'un salaire, j'ai le confort d'un poste, parce que c'est le dilemme dans lequel se retrouvent beaucoup de personnes qui ont envie de faire un changement de carrière. C'est le confort de ce que j'ai actuellement et l'inconnu de ce qui vient. Oui, j'ai une passion. Mais est-ce que cette passion ne sera pas juste, n'est pas juste un mirage, ne sera pas juste une émotion? Est-ce qu'elle va pouvoir me nourrir suffisamment malgré les coups difficiles? Et donc, être pris entre ces deux pensées, est-ce que je reste dans mon confort ou est-ce que je sors de ce confort et je vais vers l'inconnu? Quitte à me, entre guillemets, peut-être quitte à me casser la gueule, mais comment faire pour ne pas avoir de regrets, en fait? Est-ce que tu t'es posé toutes ces questions?
Bien sûr, mais c'est intéressant que tu parles de regrets parce que on peut se poser la question différemment. Je reste dans mon confort et dans 10 ans, je vais regretter d'être restée dans mon confort parce que j'aurais pas fait ce que je voulais faire.
Absolument.
Parce que c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un confort, on a un salaire, on est bien, on a des avantages sociaux, etc. On a une stabilité, bien sûr que c'est réconfortant. Mais à un moment donné, il faut se poser cette question-là. Et dans 10 ans, lorsque je vais me réveiller, est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir exploré cette partie de moi? C'est à ce moment-là que la question du regret, je comprends très bien, mais il faut se la poser différemment. Bien sûr que c'est difficile au début, bien sûr, sortir de sa zone de confort, ça n'a jamais été facile de toutes les manières. Mais la question, c'est de se dire, est-ce que je n'ai pas envie d'explorer, en fait, et de me donner la chance de faire autre chose et de voir de quoi je suis capable, moi, en tant que personne? Qu'est-ce que je suis capable de réaliser? Jusqu'où je peux aller? Quelles sont, est-ce que je peux dépasser certaines peurs, etc., etc. Et c'est très gratifiant, en fait, parce qu'on laisse de côté un confort, mais c'est extrêmement gratifiant de se dire, avec du recul, hein, bien sûr, on ne se le dit pas forcément tout de suite, mais de se dire, j'ai persévéré, je n'ai pas lâché, ça a été dur, j'ai pleuré, j'ai travaillé jusqu'à pas d'heure. Mais ça finit par payer. Parce qu'au final, oui, ça prend du temps, mais ça finit par payer. La persévérance, le travail, les nuits blanches, parce que ce n'est pas de tout repos. Hein, ça reste aussi de l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Mais on se dit, je suis contente, je suis heureuse de l'avoir fait. Ok, j'ai perdu en confort, c'est vrai. Mais avec le temps, on finit par regagner ce confort-là. Moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, une fois que je suis sortie de ma zone de confort, ça m'a quand même pris du temps pour la retrouver. C'est important de le dire. On ne réussit pas tout de suite. Ça prend du temps. On est à nouveau venu dans le domaine. Personne ne nous connaît. En tout cas, personne ne nous connaît dans ce domaine-là.
Absolument.
Donc, c'est from scratch. Il y a tout à construire. Cette question, on est tiraillé entre deux envies. Il faut vraiment se dire à ce moment-là, la question à se poser, c'est est-ce que je ne vais pas le regretter dans 10 ans?
De n'avoir rien fait.
De n'avoir rien fait. Et je pense que la question à ce moment-là du temps et de la décennie, elle est encore plus triviale 10 ans après parce qu'on se dit, oh, mais là j'ai 40 ans ou 50 ans, est-ce que je n'aurais pas pu le faire quand j'y avais pensé, quand j'avais 30 ans?
Mais je pense que c'est le questionnement de la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est son questionnement. Et si j'avais fait ça il y a 10 ans?
Mais elle s'est quand même lancée,
ouais.
Elle a eu quand même le courage de se lancer. Peut-être qu'elle n'était pas prête il y a 10 ans, la question était en train de... Elle cogitait, c'était à l'état de petite graine dans sa tête,
ouais.
Mais peut-être qu'il a fallu ce temps de maturité pour qu'elle puisse se décider et qu'elle soit sûre d'elle.
Oui, oui, oui.
Certaines personnes y pensent pendant quelques mois, un an ou deux. D'autres ont besoin de beaucoup plus de temps pour mûrir l'idée dans leur esprit et se sentir assez courageux pour franchir le pas. Donc, ce n'est pas du temps perdu, c'est un temps de maturation.
Absolument, c'est différent que de fermer la porte complètement à la réflexion et se dire
Exactement.
Non, je passe à autre
Exactement.
Chose. Je reste dans ce que je connais.
Absolument, c'est différent.
Alors, comment tu penses qu'on peut cultiver cette notion du risque, accepter de prendre le risque dans notre société?
Alors, je pense que c'est une question générationnelle. Pour ma part, je sais que ma génération a beaucoup... est très différente de la génération de nos parents qui était très stable sur le plan professionnel. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on est beaucoup plus on est beaucoup plus ouvert à cette prise de risque-là. Il y a toute cette génération de start-up, de auto-entrepreneurs. Il y a vraiment, c'est devenu presque culturel en fait. Donc, avoir des exemples autour de soi, se documenter, voir aussi ce qui se fait aussi à l'étranger et dans son entourage, permet aussi de désacraliser en fait cette prise de risque. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, et au pire, je me lance. Et au pire, ça ne marche pas. Et au pire. Mais c'est super. Au pire des cas, ça ne marche pas, mais j'aurais appris d'un échec. Parce qu'on a aussi dans notre société, cette en guillemets, honte de l'échec. Mais pas du tout. Au contraire, c'est une expérience. C'est merveilleux d'échouer. Moi, quand j'échoue à certaines étapes de mon parcours, mais je me dis, ok, j'ai échoué, mais qu'est-ce qui clochait ? D'accord, telle et telle et telle et telle chose n'ont pas marché. Comment est-ce que je pourrais améliorer tout ça pour la prochaine fois ? Et au pire, si ça ne marche pas, je prends le risque et ça ne marche pas. Très bien, j'aurais appris de quelque chose. Pourquoi pas même l'écrire sur mon CV ? J'ai lancé une start-up. Ça n'a pas fonctionné. Mais je l'ai quand même fait. J'ai été auto-entrepreneur. C'est pas donné à tout le monde, quand même.
Non.
C'est super de pouvoir se dire, je l'ai fait.
Ouais.
Et ça serait dommage de ne pas le valoriser. Alors... Et on en a beaucoup, des cas comme ça, de personnes qui se sont lancées, mais qui sont revenues en entreprise, mais en étant beaucoup plus... fort, entre guillemets, professionnellement.
D'expérience et d'apprentissage,
oui,
absolument. Alors, Salim Machaïb, aujourd'hui, tu en es où dans tout ce, avec ce voyage ?
Alors, aujourd'hui, nous avons notre marque qui a été lancée en 2018.
Quand tu dis nous, c'est toi et d'autres personnes ?
Et d'autres personnes qui travaillent avec nous. On a 3 personnes à temps plein. Et puis, ma mère aussi, qui est à mes côtés.
Tu l'as embarquée dans l'aventure ?
Ah oui, ouais. Oui, absolument. Oui, oui, elle était très inquiète au début, mais qui a été là depuis le début pour me soutenir et nous soutenir. Donc, c'est fantastique. On a cette chance-là. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait, évidemment, c'est... promouvoir pas uniquement notre marque, mais promouvoir tout notre patrimoine à l'étranger. Moi, ça a été une vision dès le départ, c'est-à-dire nous avons la philosophie de réinterpréter des tissus traditionnels, mais ne pas rester qu'au Maroc, montrer au monde ce dont on est capable. D'autres l'ont fait, alors pourquoi pas nous ? On est capable de le réaliser, on est capable de le faire. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de s'ouvrir à l'international et d'essayer de promouvoir tout notre travail à l'étranger.
C'est compliqué de s'ouvrir à l'international ?
Oui.
Oui.
Oui, oui, oui. C'est compliqué, mais ce que je remarque en fait depuis quelques années, mais depuis peu, hein, je dirais un an ou deux, c'est que il y a une volonté en fait, d'aider les marques marocaines et une volonté de les exporter. Le mot n'est pas très glamour, mais vraiment une volonté étatique, gouvernementale, d'aider tous les créateurs marocains à promouvoir leur savoir-faire à l'étranger.
Donc en fait, tu te retrouves pas, tu sens que tu n'es pas seule. Dans ça, en fait, il y a un support.
Il y a un support, bon, c'est des prémices, mais il y a un support. C'est-à-dire que les gens sont réceptifs quand on s'adresse je vais prendre des cas concrets, aux transporteurs, aux transiteurs, aux douanes. Les gens sont réceptifs aujourd'hui. Chose ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Les gens sont vraiment réceptifs, les gens comprennent nos attentes et aujourd'hui le dialogue est possible. Donc on sent que on est vraiment dans un nouvel élan. Voilà. Mais après ça reste compliqué. ça reste compliqué de démarcher, d'aller à l'encontre des acheteurs, etc., etc.
Selima Chaïeb, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, merci. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'être là et merci pour l'invitation.
Merci à toi pour la confiance. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.